Bonjour, et maintenant, comment penser l'après Charlie? Comment penser l'après 7 janvier? Comment aborder l'après 7 janvier quand on a pour mission d'écrire, d'informer, de faire rire, de critiquer l'information, ou simplement quand on vit en France? Alors pour poser des mots sur nos sentiments et nos émotions, et peut-être aussi si on y arrive pour essayer de commencer à y réfléchir, on a souhaité, pour cette émission, réunir quatre chroniqueurs et anciens chroniqueurs du site pour réfléchir tous ensemble, pour partager ce qu'on a à partager, éventuellement discuter de ce qu'on a à discuter, dont Judith Bernard, ex-chroniqueuse et directrice de Hors-Série, site, comme vous le savez, adossé à Arrêt sur Image, Jean-Marc Manac, chroniqueur, 14h42, Alain Corcos et Didier Porte. Voilà. Alors, comme il n'est pas facile de commencer une émission pareille, je me suis demandé comment je la commencerais. Et je me suis dit, évidemment, j'ai eu beaucoup de conversations téléphoniques ces derniers jours avec les uns et les autres. On s'est beaucoup parlé. Je me suis rendu compte que la première question qui me venait toujours, c'était comment tu te sens? Comment vous vous sentez? Comment tu te sens? Didier, comment vous vous sentez?
Je me sens... j'étais relativement sidéré, je dois dire que... Pour moi, je pense surtout à Wolinski et à Cabu, qui sont des gens presque de la famille. C'est vrai que depuis que j'ai 14 ans, grosso modo, ils sont là, quoi. Donc, terminer comme ça dans un bain de sang, alors qu'ils symbolisent l'hédonisme, la déconne, la joie de vivre, le côté bon vivant, le côté gaulois, c'est pas des idéologues. Moi, je les ai jamais perçus comme des idéologues, c'est des esprits libres. Et voilà. Et donc, terminer effectivement dans un bain de sang, comme s'ils étaient porteurs d'une idéologie, comme si c'était une guerre, c'est terrifiant. Et moi, la seule référence que j'ai, c'est vrai quand j'y pense, en tant que post-baby-boomer, en tant que baby-boomer, quasi-baby-boomer, boomer, c'est le nazisme. C'est-à-dire mais oui, parce que c'est le mélange d'une idéologie avec une sauvagerie criminelle qui pour moi n'a pas d'équivalent dans mon imaginaire que le nazisme. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la guerre d'Algérie entre-temps aussi, mais la guerre d'Algérie, quand j'étais gamin, on n'en parlait pas, c'était totalement occulté. Donc pour moi, c'est vrai que la seule chose qui me renvoie à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le nazisme. Donc c'est
la première pensée qui vous est venue,
c'est le nazisme. Vraiment, c'est cette espèce de coïncidence entre une idéologie, un projet idéologique et une sauvagerie dans l'action criminelle, dans l'action, c'est le nazisme. Pour moi, c'est le seul truc. Donc c'est vrai qu'on le prend dans la gueule de manière terrible.
– Alain ?–
Assez effaré, comme tout le monde, comme Didier. J'ai pas fait l'analogie avec le nazisme. J'ai beaucoup pensé à Cabu. Comme je disais dans un vide dit, ça a été une espèce de père de substitution.
Père?
Oui, je ne l'ai pas connu, mais j'ai grandi avec ses dessins, des pilotes. J'étais tout jeune. Quand il a créé Dudu, c'était en 63, moi j'avais 8 ans. Et puis, comme je disais, son Dudu a grandi, j'ai grandi avec lui. Cabu est devenu écolo, tout ça, dans les années après 68. Moi, pareil, j'étais dans tous ces trucs-là. J'ai vraiment eu un parcours similaire, quoi. Et c'est presque, pas lui seulement, je ne vais pas exagérer, mais Cabu m'a guidé. Il n'était pas le seul, mais il y en a eu d'autres. Mais il était parmi ceux-là. Et voir ce mec disparaître comme ça, dans une espèce d'acte barbare, pour moi absolument incompréhensible. Et c'est là où je rejoindrai quand même Didier sur le nazisme. Je ne sais plus qui j'ai entendu dire hier... cet acte, on ne peut pas l'expliquer, il est inexplicable. Et c'est vrai que Jean Kilevitch disait ça du nazisme, de la barbarie nazie, il ne faut pas chercher à expliquer, c'est inexplicable. Voilà, j'en suis là, quoi. Alors, je parle de Cabu, il y a Wolinski, il y a tous les autres, hein, évidemment, mais pour moi, Cabu, c'est une espèce de dieu vivant, quoi.
Ce qu'il faut dire sur le personnage de Duduche, c'est qu'effectivement, il a épousé son époque et il a changé. Oui. Le Duduche des années 60, ce n'est pas celui des années 70.
Ben non, pas du tout. C'était un petit lycéen, il est devenu contestataire, puis un peu plus contestataire encore, carrément écolo, de gauche. Bon, sa conscience politique est née avec les années et ça a forgé un peu la mienne et des milliers de gens comme moi, quoi.
Est-ce qu'il a croisé le beauf, d'ailleurs, Duduche ?
Dans des BD.
Je sais plus, il n'y a pas eu.
Je pense qu'il y a eu des dessins.
De relais entre.
Il y a eu des dessins d'humour, probablement.
Il y a des déjeuners. Il y a des déjeuners communs où Duduche est avec son beauf et Duduche tient ses discours antimilitaristes, il commence à cracher sur l'armée et tout. Et le beauf, je crois, hein, de mémoire.
Je ne me souviens pas de.
Les plus éminents spécialistes me l'introduiront peut-être.
Je ne me souviens pas de ça. Mais le beauf. Ce qui est fou aussi, c'est que bon, Duduche, on l'a tous connu. Enfin, les gens de ma génération, on était tous des Duduches.
Vous n'avez pas trop changé. Hein. Non, on voit des.
Et le beauf, on l'a tous connu. Moi, c'était mon voisin de palier. Il n'y a pas à chier. Il est venu chez moi espionner mon voisin de palier, quoi. Ça, c'est extraordinaire.
Jean-Marc ?
Moi, je ne lisais pas Charlie, pour différentes raisons. Parce que j'avais souci avec Philippe Val. Qui avait qualifié Internet de commandant tour libéral quand on avait osé se moquer de Charlie Hebdo en l'an 2000. Et après, il était parti dans une croisade anti-Internet qu'il a continué pendant très longtemps, donc je ne lisais plus Charlie. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le son, en fait. Parce que quand j'ai vu la vidéo prise sur le toit par les journalistes de Première Ligne, moi, j'ai travaillé à Première Ligne pendant plus d'un an. Donc je connais la rue, je connais le toit, je connais la rue Appert. Les dernières fois que j'y suis allé, il y avait des voitures de police qui, effectivement, étaient là pour protéger Charlie. Encore qu'apparemment, j'ai cru comprendre que mercredi, il n'y avait pas de voiture de police à l'entrée de Charlie. Je ne sais pas pourquoi.
Mais c'est un policier à l'intérieur qui était
chargé de protéger Charb. Mais pendant des mois, il y avait une voiture de police qui était en bas du 10 de la rue Nicolas Appert. Et quand j'ai vu donc, ces deux types noirs là, tirer à la Kalachnikov, le bruit, ça m'a glacé. Parce que je connais ce toit-là, je connais ce bâtiment.
Le toit ?
Le toit, oui, on n'avait pas le droit d'aller sur le toit, mais je le voyais, le toit était à côté de mon bureau. Et donc j'ai ressenti physiquement quelque chose qui m'a touché personnellement, parce que jusqu'à il y a quelques mois, c'était mon bureau, en fait. Et après, quand j'ai appris qu'il y avait Bernard Maris, ils ont tué Bernard Maris. Mais tous les matins sur France Inter, on a un journaliste économiste de droite et Bernard Maris, il venait une fois par semaine. Mais ce mec-là, j'ai vachement appris. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui arrivait à m'intéresser à l'économie. Après, Duduche, le beauf, moi, j'aimais pas la page 7 du Canard. C'est un des rares trucs que j'aime pas dans le Canard. Je suis pas très caricaturiste. Donc, mais s'attaquer à ces gens-là qui étaient... Enfin, c'est ce qu'a dit Philippe Val, je crois, ou Payou, c'était des grands-enfants. On a massacré des grands-enfants à la Kalachnikov pour des dessins. Dans le papier que j'ai fait hier, où je racontais comment un ancien de la DGSE et un journaliste assez baroudeur ont révélé l'identité des terroristes présumés, ce qui m'a marqué, c'est que les deux, avant de balancer les fiches de l'avis de recherche de la police, ils avaient eu la même réaction, ils n'avaient pas parlé terrorisme, ils avaient dit on est en guerre, c'est la guerre. Et moi, le son de la Kalach...
Les deux tweetos, les deux qui ont balancé les...
Ouais, Pierre Martinet et Jean Paul Ney,
qui ont balancé
avant de balancer
les
renseignements, ils avaient eu la même réaction, c'était de dire c'est la guerre, on est en guerre. Et il y a même Jean Paul Ney qui avait prévenu que c'est la première fois de sa vie où il allait aller au travail avec un flingue, et il a fait une photo où il mettait sa carte de presse avec un flingue posé dessus, Et ouais, je réalise toujours pas la violence de ce qui s'est passé, ce que ça va changer. Donc là, les opérations sont en cours à l'heure où on enregistre.
À l'heure où on enregistre, c'est-à-dire vendredi midi.
Vendredi midi.
Apparemment, les deux frères assassins présumés sont cernés par la police dans une zone industrielle de Seine-et-Marne.
Avec un truc très étonnant, il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a quelqu'un qui avait rendez-vous avec le patron de cette imprimerie. Le patron a ouvert la porte, il lui a serré la main. Il y avait un mec du ça a été présenté, et un mec du GIGN qui l'a serré la main au représentant de commerce qui venait voir. Et le flic, la personne s'est présentée comme un policier et il lui a dit : mais ne vous inquiétez pas, on ne tue pas les civils. Et il l'a laissé partir. Et ça, le type, un policier qui dit on ne tue pas les civils. Donc il a appelé les flics et c'est comme ça apparemment que les policiers ont su que les frères étaient dans ce truc-là. Donc apparemment, enfin voilà, c'est, je ne sais pas si c'est des exaltés, je ne sais pas si c'est des fous, je ne sais pas si c'est une secte, mais et voilà, c'est la guerre. Je ne sais pas si on faut parler du terrorisme, c'est, je ne sais pas. Enfin voilà, je suis encore un peu paumé.
Judith.
Oui, moi j'ai été dévastée évidemment, pas en tant que lectrice de Charlie, parce que je me suis rendu compte plusieurs heures après que j'avais jamais lu Charlie. En fait, je crois même que je l'ai jamais lu, je l'ai jamais eu entre les mains. Et pourtant, quand j'ai appris les morts les unes après les autres, je me sentais absolument dévastée. Par rapport à Cabu, qui était pour moi un peu une petite figure tutélaire, pour moi c'est le Cabu du Club Dorothée. Quand j'étais petite, je regardais le Club Dorothée, donc pour moi c'était un gentil dessinateur absolument inoffensif. Par rapport à Bernard Maris, qui était une voix qui comptait beaucoup pour moi à l'époque où j'écoutais encore France Inter. Donc c'était des figures un peu tutélaires, un peu des espèces de parrains, des tontons pour moi. Et puis surtout des... Après, j'ai pas suivi Charlie, mais je percevais cette équipe-là comme une équipe de libres penseurs, des joyeux drilles un peu provocants, mais surtout qui pratiquaient un exercice de la libre pensée. Et du coup, la violence du geste assassin, je l'interprétais comme un assassinat de cette liberté-là. Moi, je n'ai pas pensé au nazisme, ça ne m'a pas fait venir des choses comme ça. Ça m'a évoqué des choses autour de la chasse aux sorcières, en fait, cette manière. Mais la vraie chasse aux sorcières, celle du 15e, 16e siècle, ou 16e, 17e, quand on utilisait le discours religieux pour faire régner le climat de terreur et pour éliminer physiquement, par le bûcher, tous les individus qui ne se pliaient pas à une doctrine bien organisée. En fait, il s'agissait aussi d'éliminer les formes alternatives de pensée, d'existence, toutes les formes de dissidence. Et ça a été un désastre et ça a fait entre 100 000 et 200 000 morts en deux siècles. C'était une vraie terreur, une violence absolument démente qu'on a un petit peu escamotée depuis. Et il y avait cette même pratique d'un discours qui se sert, qui s'habille de la forme verbale de la religion, alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir avec la religion. Enfin, ce geste-là ne peut à aucun endroit correspondre avec un dogme religieux. La religion n'a pas été conçue pour organiser ce genre de geste. Et donc, il y a une imposture absolument obscène et ignoble de déguiser ce geste-là sous un avatar religieux, alors que ça n'est que l'expression d'une violence démente qui entreprend de détruire de l'altérité et de la dissidence. Voilà, donc moi aussi, je me sens orpheline de quelque chose.
De quoi ? Quelque chose qu'on pourrait appeler comment ?
Cette libre pensée, justement. On ne peut pas penser librement après ça. C'est-à-dire que c'est évident que, quelle que soit l'évolution de la situation maintenant, on va tous, ça infuse en nous, on va tous se sentir... Tous, évidemment, ceux aussi qui font métier de la parole publique, d'abord ceux-là, hein, la parole publique, le journalisme. Comment on va lutter contre les effets d'autocensure ? Comment
on va commencer l'autocensure. Oui. Il y a un papier de Street Press qui a dit que le reportage qu'ils avaient prévu de faire sur un imam, ils ne vont pas le faire, parce qu'il ne faut pas toucher aux musulmans en ce moment, c'est trop touchy. Mmh. Donc il y a la chronique que j'avais prévu de publier aujourd'hui, qui était une super belle histoire, j'ai décidé de ne pas la publier, parce que ce n'est pas le moment de raconter une super belle histoire.
Enfin, le sujet n'avait rien à voir. Hein.
N'avait rien à voir, mais le fait est qu'on a déjà commencé à s'autocensurer, soit sur certains sujets qui entraient à l'islam, ou en l'espèce, une belle histoire, et il y avait comme ça un certain... Ou, on l'a vu, je crois que c'est le New York Times qui a refusé, qui a flouté, enfin il y a plein de titres de la presse américaine.
Le New York Times a refusé
les unes. Certaines des lignes de
images. Le New York Times a refusé de publier les images. Et il y a d'autres. Alors là, journaux comme
faut raconter ce qu'on voit là. Là, on voit une image qui est passée sur un site de presse américain, je crois.
C'est le New York Daily.
C'est le New York Daily quelque chose. Merci.
Il y en a eu plusieurs.
Merci Alain. Où on voit effectivement Charb après le précédent attentat contre Charlie Hebdo qui avait provoqué un incendie dans les locaux. Donc c'est une image d'archive et sur laquelle effectivement Charb brandissait la couverture de Charlie Hebdo. Hebdo une des couvertures sur Mahomet, et effectivement, ce média américain le délie quelque chose, l'a flouté, n'a pas voulu la montrer.
Il y a le journal danois également, qui était à l'origine de la publication des caricatures de Mahomet, qui lui-même a refusé de republier ces dessins-là, alors que c'était le premier à l'avoir publié, ouais. et qui a été ensuite republié par Charlie Hebdo, d'où le massacre auquel on a eu droit.
Et hier, il y a eu un dessinateur politique anglais qui a déclaré au Guardian que maintenant, on allait réfléchir à deux fois avant de faire un dessin. Et il a dit ça d'une manière de dire « je ne vais plus dessiner n'importe quoi, je vais faire gaffe à ce que je dessine ». Mais alors bon, autant qu'il se reconvertisse dans la plomberie. –
Attendez, parce qu'on est tous là en train de se dire « quelle horreur, voilà l'autocensure arrive », en même temps.
– Il n'y a jamais autant de dessins. Non,
c'est pas ce que je voulais dire. Mais quand Charlie Hebdo a publié les caricatures de Mahomet, plusieurs personnes se sont légitimement posé la question de savoir si ça valait le coup. S'il n'y avait pas un côté provocation à l'égard des musulmans. Charlie Hebdo a été accusé de d'islamophobie ou de flirter avec l'islamophobie, etc. C'est des questions qu'on se posait à l'époque, qu'on s'est posées sur ce plateau et qu'on se posait légitimement.
– On pouvait se la poser aussi compte tenu du fait que, je ne sais plus combien il y avait de dessins, 6 ou 7, sur 6 ou 7, il y en avait un qui était bien, tous les autres c'était des bouses.
– Ça c'est un autre problème, ouais, non mais ça c'est autre chose.
– Il me semble qu'en plus, là, c'est justement parce que l'examen critique de la qualité du travail, il a déjà été fait à l'époque où c'était possible de le faire, c'est-à-dire qu'on était simplement dans des questions de polémique idéologique, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit, est-ce que l'époque permet ça. Bon, on pouvait le faire au moment où ils étaient vivants, mais il me semble qu'à partir du moment où ce qui s'est passé, l'examen critique de leur travail, c'est juste pas…
On ne peut pas le faire maintenant. – Non, on parle des dessins originaux. Originellement publié
au Danemark.
C'est de ça dont je parle.
Dont vous dites qu'il était mauvais. Je voudrais juste qu'on écoute la manière, parce qu'évidemment, quand ils étaient vivants, c'est une question qui leur était souvent posée, surtout à partir de l'affaire Mahomet. Je veux dire, dès qu'ils arrivaient sur un plateau de télévision, on leur posait la question. Je voudrais qu'on écoute Cabu et Wolinski répondant à cette question il y a quelques années sur le plateau de la chaîne parlementaire.
Il y a deux tabous toujours, les religions, parce qu'avant je vous aurais dit la religion catholique, mais maintenant toutes les religions s'y mettent, et puis l'armée, mais l'armée ça diminue parce qu'il n'y a plus de conscription, donc l'armée dans son coin, on ne la voit plus, quoi.
On peut toujours moins caricaturer la religion que le reste.
Ah, ça devient impossible même.
Pire qu'avant.
Pire qu'avant, oui, ça c'est pire qu'avant, t'es d'accord, oui. Georges
hein. Je ne sais pas, j'en entends pas.
Enfin, ce qu'il veut faire le pape, il hésite, non, Georges?
Bon, je le fais pas souvent, mais ça m'est arrivé dans le journal du dimanche. Oui.
Mais en ayant
j'avais même une heure même pour le faire. Je n'avais pas plus que.
Que ça avait donné
parce
quoi?
Qu'il était mort. Ah, j'avais fait un dessin symbolique avec le pape qui s'envolait de sa fenêtre. C'était assez joli, mais enfin, c'était pas.
C'était moins cruel que certains dessins politiques.
Je ne veux pas m'amuser à faire des dessins anti-religieux.
Ça, ah si, il faut. Jean-Louis Chiffet, c'est la dernière limite.
Toi, tu aimes bien.
C'est la dernière limite. Oui, je pense que c'est la dernière limite. Et c'est vrai ce que dit Jean Cabu, c'est que maintenant, il est extrêmement difficile, parce que ce n'est plus un problème d'une seule religion, mais de toutes les religions.
Est-ce que c'est le cas uniquement depuis les caricatures de Mahomet?
Je pense que oui, c'est les caricatures de Mahomet qui ont fait exploser ce problème, et depuis, tout le monde marche sur des œufs.
Avec le recul, c'était une bonne idée de publier, comme Charlie l'a fait, les caricatures?
Oui, je pense qu'il fallait le faire, parce que c'est eux qui vont nous pourrir la vie, quoi.
C'est aussi ça de la politique, c'est aussi ça la politique, de pouvoir parler de la religion librement?
C'est très politique, oui, bien sûr, et c'est... Quand le domaine privé déborde sur le domaine public, là, on doit dessiner les... Enfin, moi, je suis un athée pratiquant.
Et on voit qu'il y a quand même des caricatures religieuses hein, qui passent à l'écran actuellement.
Il dit quelque chose d'important. Je suis athée pratiquant. Ouais. Or, c'est tout simplement que les humoristes sont tous athées. Ouais. C'est pas possible d'être humoriste et de croire dans les bêtises de la religion.
Cabu et Wolinski, enfin, ça fait... Voilà. je sais pas comment.
Ils ont poursuivi le travail voltairien de la satire d'absolument toutes les doctrines religieuses, sauf qu'on n'est plus exactement au siècle des Lumières et que les convictions religieuses aujourd'hui ont une toute autre signification qu'à l'époque où elles étaient encore dictées par des églises dans un contexte socio-économique qui n'était pas le même. Quoi. Aujourd'hui, avec la dislocation du tissu social, des sociétés qui sont complètement en perte d'identité, et on sait bien que le refuge dans la conviction religieuse est un réflexe identitaire, c'est la réinvention d'une identité. Donc ça ne signifie pas la même chose qu'à l'époque où Voltaire se foutait de la gueule de absolument toutes les croyances. Et eux, ils ont persisté dans ce geste voltairien de la satire de la conviction religieuse, alors qu'aujourd'hui, elle n'a plus la même signification pour ceux qui la vivent. C'est devenu la seule identité valable au milieu d'un monde dans lequel il n'y a aucune autre identité collective.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la religion qui était oppressive au XVIIIe ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et au contraire,
elle prend une autre signification. Ce n'est pas qu'elle est plus oppressive.
Ce qui veut dire que, selon vous, Judith, sa dimension oppressive a tout à fait disparu.
Pas du tout. Elle est extrêmement oppressive. Mais aujourd'hui, il y a une demande de cette oppression-là parce que c'est vécu comme une prescription identitaire. Et qu'il y a un défaut d'identité collective. Là, je veux dire, c'est un peu café du commerce, mais on sait bien qu'il y a une dislocation des identités collectives. La nation, ça ne veut rien dire. L'Europe à laquelle on appartient, ça ne veut rien dire non plus. Plus personne ne sait d'où il est et ce vers quoi il va au sens d'une existence collective. Et donc, ceux qui sont les plus déconnectés des inscrits du tissu social ont impérativement besoin de réinventer une identité collective, et bien sûr que la religion, parce qu'elle est oppressive, précisément parce qu'elle dicte des comportements collectifs, elle fabrique du coup à nouveau du groupe, de l'identité commune. Et ils sont.
Ce qui veut dire.
Ils ont besoin de ça.
Ce qui veut dire qu'ils ont eu tort de persister dans ce geste voltairien.
Je ne sais pas s'ils ont eu tort, mais c'était évidemment maladroit, au sens où ça suscite en face une réaction d'une.
C'était maladroit.
Ouais, je pense que c'est maladroit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
Alors
c'est pas parce que c'est maladroit qu'il faut pas le faire. Moi, je suis très partagée par rapport à tout ça. Je sais que la liberté, l'exercice de la liberté d'expression est une aventure très périlleuse qui suscite en ce moment particulièrement de malentendus, d'incompréhensions et de violences. On est dans un climat extrêmement hystérique sur toutes ces questions-là. Et donc, persister dans l'exercice de la liberté d'expression, c'est forcément toujours maladroit, au sens où ça va toujours heurter des sensibilités qui sont complètement intensifiées aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que c'est maladroit qu'il faut totalement s'abstenir. Je ne suis absolument pas favorable à des pratiques de censure, d'interdiction.
Autocensure, ce qui veut dire que pour un humoriste, il y a un avant 7 janvier, un après 7 janvier.
Ça fout les jetons quand même. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des papiers, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un papier après les décapitations d'otages par Daesh. J'ai fait un papier sur RTL, qui est un grand média quand même, à une heure de grande écoute. Et c'est vrai que par principe. Alors que je suis assez mitigé, moi, par rapport à l'islam. J'étais un peu gêné par la sorte de croisade que Philippe Ball, effectivement, avait engagée Charlie Hebdo derrière lui, derrière ce qui ressemblait de plus en plus à une croisade contre l'islamisme. Mais bon, voilà.
Et ça mais bon, comment Mais bon, quoi
L'islamisme, mais un peu aussi l'islam au sens plus large du terme. Et ça me gênait parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème avec les musulmans en France, il y a un problème d'intégration malgré tout, il y a un problème de cohabitation entre des communautés et que, effectivement, j'ai pas envie de rigoler, de faire rire avec Marine Le Pen et avec des gens comme ça. Hein. On reprend la phrase de Desproges, on n'a pas envie de rire avec tout le monde.
Pas au sens de rire de Marine Le Pen,
mais de rire avec elle.
Avec Marine Le Pen.
Et donc, voilà, on est instrumentalisé malgré tout quand on va. Les blagues sur l'islam, c'était pas trop politiquement ma tasse de thé. Mais là, donc j'ai fait ce papier par principe, parce que là, ça ressemble tellement à de l'intimidation qu'en tant qu'humoriste, tu as envie de dire, non, je ne vais pas me laisser faire. Donc j'ai fait un papier, effectivement, assez. Heureusement, peut-être que. Ils n'ont pas écouté RTL ce jour-là, j'ai pas reçu une menace. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, si je devais le faire ce midi ou demain, j'y réfléchirais, parce que mourir pour des idées, oui, mais de mort lente, c'est toujours pareil, quoi. Donc, ouais.
Vous pensez que tous les.
Ça va faire réfléchir.
Tous les journalistes, tous les chroniqueurs, tous les humoristes qui sont amenés à traiter ce sujet aujourd'hui en France peuvent se sentir menacés.
Je pense que tous ceux qui sont sur un support facilement lisible, c'est-à-dire soit les dessins, soit la voix, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que quand il y a beaucoup de pages à lire, manifestement, ils ont du mal. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris à Éric Zemmour, s'il y avait trop de pages hein, pour les mecs. Donc, si c'est un dessin qui a juste à colorier, c'est bon, ou une radio à écouter, ça va. Donc là, effectivement.
Faites gaffe, là. Ils risquent de mal le prendre, là, ce que vous êtes en train de dire.
Oui, oui, non, il ne faut quand même pas se déballonner complètement.
Ouais, un peu, mais pas trop, quoi. Alors, c'est vrai que tout se bouscule, hein. Par exemple, ça fait trois fois qu'on prononce sur le plateau le nom de Philippe Val. Vous avez rappelé ce qu'il avait dit sur Internet, commandant tour de je ne sais plus quoi.
Commandant tour libéral. En fait,
commandant tour libéral.
C'était un papier qui avait été fait Arnaud je faisais partie d'un groupe qui défendait la liberté d'expression sur Internet. Et Arnaud avait fait un papier où il disait ouais, Charlie Hebdo qui dit qu'il ne fait pas de publicité, ils ont un partenariat publicitaire avec Libération, ils ont une page de pub pour Libération pour Charlie et vice versa. Ce qui en soi, c'est pas une critique au bazooka. Et en réponse à ça, Philippe Val avait fait un édito d'une pleine page pour dire qu'Internet, c'était la commandant tour libérale, où on y croisait des pédophiles et des nazis qui racontaient n'importe quoi. La violence de la charge de Philippe Val était telle qu'on a fait plein de papiers pour se foutre de sa gueule. Et je sais pas si c'est lié, mais c'est vrai que pendant des années, on a eu Philippe Val pour qui Internet, c'était des pédophiles et des nazis, quoi. Et moi, qui étais défenseur des libertés sur Internet, c'était hallucinant d'avoir quelqu'un qui se présentait comme un éditorialiste rigolo, qui avait de l'humour, qui était rentre-dedans, et de voir qu'en fait, eh ben, non, c'était un néocon. De plus en plus, il avait un virage néocon, qui s'est retrouvé, effectivement, après, dans la façon qu'a eu le débat avec Caroline Fourest. Comment ?
J'en sais quelque chose.
Voilà.
Et puisque vous avez été viré de France Inter...
Oui, avec Stéphane Guillon, par Philippe Val, sur recommandation de Sarkozy.
Voilà, et c'est vrai que personnellement, je n'avais pas non plus une sympathie modérée pour Philippe Val. Et puis, cette semaine, sur France Inter, chez Nicolas Demorand, on l'a entendu après la mort de ses copains, de Charlie. Je voudrais qu'on l'écoute.
Tous mes amis sont partis. Et ce n'était pas pour une mauvaise cause. C'était juste pour qu'on puisse vivre, et que les enfants puissent aller et venir, qu'ils puissent dire des conneries sans danger. Voilà, c'est horrible ce qui arrive, c'est horrible. Il y aura un avant et un après, notre pays ne sera plus le même. On a exterminé une certaine façon de faire du journalisme, on a exterminé tous les gens qui étaient capables de faire rire avec les idées graves. C'est un deuil épouvantable qui s'abat sur nous. Mais il ne faut pas que ce soit le silence qui gagne. Elisabeth Badinter avait dit ça au procès des caricatures. Elle avait dit, s'ils sont condamnés, c'est le silence qui s'abattra sur nous. Eh bien aujourd'hui, moins que jamais, il faut qu'ils s'abattent sur nous. Il faut parler, il faut dire ce qu'on ressent, il faut dire ce qu'on pense. Et puis, je n'ai pas la foi. C'est dommage. J'aimerais peut-être avoir la foi aujourd'hui. Parce que si je l'avais, je dirais... S'il y avait une vie après la mort, je leur dirais combien je les aime, combien ils ont été indispensables à ma vie, combien ils sont indispensables aussi à tous les autres, ils sont indispensables à tous les gens qui ont besoin de la liberté pour vivre.
Voilà, quand je disais qu'on traverse des moments compliqués, ce moment où ben voilà, on est ému par l'émotion de Philippe Val. Moi, j'ai entendu ça, j'ai été ému par l'émotion de Philippe Val. C'est quelque chose que je n'aurais pas attendu. Je ne sais pas si vous aussi.
Moi, mais...
bon.
Bah si, moi, j'ai ressenti vachement cet élan de communion quand même. Après avoir passé l'après-midi de mercredi dans une hébétude terrifiée devant toutes les infos, il y a eu un moment, vers 5h moins le quart, en fin d'après-midi, où je ne pouvais pas faire autre chose que d'aller place de la République pour rien faire d'autre qu'être ensemble. Dans le silence, mais ressentir le lien, quelque chose de fraternel, et de silencieux surtout. Commençons pas à dire des conneries, surtout pas de récupération politique, des slogans, des analyses. Je redoute beaucoup plus la marche de dimanche où je pense que là, ça va y aller sur la récupération. Mais sur le rassemblement de mercredi, j'ai senti physiquement le besoin de refaire lien, y compris avec des gens dont je ne suis pas forcément proche. J'avais envie de retrouver des gens dont j'étais plutôt éloignée et séparée. C'est un moment où tout à coup, il y a les petites querelles disparaissent sous les grands enjeux d'être vivant ensemble et fraternel dans le deuil. Ça va très au-delà des dissensions qui ont pu nous opposer, il me semble.
C'est un besoin que vous avez ressenti aussi ?
Moi, j'enregistrais une émission de télé mercredi soir, donc c'était assez plombé comme ambiance. Et après, je sais que la majeure partie des journalistes sont à les places de la République, mais pour moi, non. Il fallait vraiment que je retourne devant mon ordinateur pour m'informer, pour savoir, pour essayer de trouver, pour avoir des infos. Et c'est là où j'ai commencé à voir des tweets qui disaient « Ne rediffusez pas l'avis de recherche de la police ». Donc bien évidemment, fais pas ci, fais pas ça. Moi, petit con, je l'ai fait, j'ai cherché. Et donc, parce que la première chose que je voulais, c'était si on a l'identité des terroristes présumés, c'était voir est-ce qu'ils ont un profil Facebook, est-ce qu'ils ont revendiqué quelque chose, qui c'était ces gens-là. Et donc j'en ai fait un papier après, et où à cette occasion, on a découvert que dans les trois personnes recherchées, il y en avait un qui était en classe au moment du massacre. Donc c'était aussi pour ça que le ministère de l'Intérieur a dit surtout, pas que le ministère de l'Intérieur, Fabrice Arfi et d'autres, ont dit ne rediffusez pas les noms, parce que, et grand bien fasse ce qui s'est passé, c'est que le Hamid en question a été prévenu par ses potes, qu'il était recherché, le lycéen, par ses potes avec qui il était en classe au moment du massacre, donc il savait bien que ça pouvait pas être lui. Il allait se rendre à la police avec son père, qui rapidement apparemment l'a mis hors de cause, sauf que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a toujours, enfin tout à l'heure j'ai regardé encore ce matin, on n'a toujours pas d'article qui dit qu'il a été libéré de garde à vue. C'est-à-dire que si effectivement il a été prouvé qu'il était, pourquoi il le garde en prison ? Bon, ça je ne sais pas, mais en tout cas ce que je voulais dire par rapport à la réaction de Philippe Valls, c'est que ça faisait très longtemps que je n'avais pas chialé. Mais que pour moi, c'était, je voulais pas aller chialer avec les autres places de la République. Je voulais faire mon taf et essayer de creuser l'info, pas lâcher. Et c'est ça que je trouve vraiment très très bien dans ce qui se passe depuis mercredi. C'est que je pense qu'il n'est pas exclu qu'il y ait un regain du dessin de presse, parce que toutes les caricatures qui ont été faites, notamment avec des crayons, qui montrent l'importance des crayons et que nous on se bat avec des crayons. Ou avec un ordinateur, mais pas avec des flingues. Et il y a pareil Street Press, j'y reviens encore, mais ils ont décidé que maintenant, toutes les semaines, il y aurait des caricaturistes qui vont faire des dessins. Donc ça, c'est peut-être paradoxalement une bonne nouvelle pour la presse. C'est peut-être un revival des caricatures dans plus de journaux.
C'est ce geste qui est fait par les manifestants.
Et le fait que des gens dans le monde entier.
Qui peut être ressenti comme un très beau geste et comme un geste dérisoire.
Et le fait qu'il y ait des caricaturistes dans le monde entier, dont les caricatures ont énormément inondé et la presse et Facebook et Twitter, parce que c'est effectivement, ça parle vachement plus facilement un dessin qu'un long texte comme je suis capable d'en faire des fois. Et ça, je pense que voilà, c'est quelque chose que je vais suivre avec intérêt, ce revival des caricaturistes, parce que ce n'est pas un métier facile. Et Charlie, ils avaient des graves problèmes financiers. Donc là, apparemment, c'est… –
Là, c'est fini, hein. Apparemment, là… –
Apparemment, ça redémarre. 1 million de tirages pour le prochain numéro. –
C'est pas gagné non plus. Hein.
– Mais ouais. Après, j'ai vu… C'est pour te dire un truc hallucinant, je suis abonné à un blog… qui est fait par un scientifique de la Fédération de la science américaine, qui sont ces gens qui se battent contre l'arme nucléaire, et qui est un des rares blogs consacrés aux services de renseignement. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, des blogs comme ça. Et dans la dernière newsletter que j'ai reçue ce matin, la dernière information, c'est que ce type-là, cet Américain spécialisé services de renseignement, il expliquait aux Américains comment s'abonner à Charlie Hebdo. Et je me suis dit, waouh, on en est là. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer sur l'avenir de Charlie Hebdo, sur l'avenir de la presse indépendante, parce qu'il n'y a pas que Charlie Hebdo. Et dans les dessinateurs qui dessinent à Charlie, ils ne dessinaient pas que à Charlie. Ils dessinaient, pour certains, au Canard Enchaîné, ils dessinaient à CQFD, qui est aussi un mensuel qui est vachement bien, qui n'est pas assez connu, et que pour le coup, j'étais abonné à CQFD, je ne m'étais pas abonné à Charlie, et ça a été fondé notamment par des anciens de Charlie qui ont été virés par Philippe Val de Charlie, qui fait un bon boulot d'information, et qui a beaucoup de caricaturistes qui dessinent dans CQFD.
– Mais est-ce qu'il n'y a pas une immense illusion de l'unanimisme ? Parce que effectivement, voir CQFD, des spécialistes du renseignement américain, Angela Merkel, Barack Obama, François Hollande, Marine Le Pen, Estrosi, est-ce que on n'est pas dans une vaste illusion de l'unanimisme?
C'est simple, quand t'as un deuil, toute la famille met les rancœurs, enfin essaye de mettre les rancœurs de côté.
Mais c'est quoi la famille? La famille, c'est Marine Le Pen, c'est Obama, c'est Merkel.
C'est qui la famille?
Elles sont où les
limites? Je ne sais plus qui disait que. C'est peut-être toi qui disais que dimanche, il risque d'avoir des récupérations politiques. Quand j'entendais hier à la radio qu'ils étaient déjà en train de se fighter pour savoir est-ce que Marine Le Pen n'est pas là et que de toute façon, Marine Le Pen, pile je gagne, face tu perds. Qu'ils lui interdisent de venir. Elle va jouer la martyre, qu'il accepte de venir, elle aura gagné parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas qu'elle vienne. Donc on est déjà dans l'après-deuil où au lieu de se dire, bon, on se calme, on met les tensions internes de côté, il y a déjà des gens qui essayent d'instrumentaliser la chose. En tout cas.
C'est qui la famille ? Il y a des gens, par exemple, Alain, dont vous êtes senti plus proche après le 7 janvier qu'avant de qui vous avez eu envie de vous rapprocher?
De tous les gens qui dessinent, qui écrivent.
Ça, c'était déjà la famille avant, tout ça.
Ouais, mais je me suis senti un peu plus proche. Et pour moi, Marine Le Pen, très clairement, ne fait pas partie de la famille. Alors peut-être que j'entre dans ce système d'instrumentalisation, j'en sais rien, mais pour moi, elle ne fait pas partie et qu'elle n'a pas cette marche qu'il y aura dimanche. Je trouve ça très bien. Oui, mais je me suis... Oui, senti encore plus proche de cette famille, notamment de... il est mort depuis un moment, mais de Kavanaugh, qui a été un des fondateurs d'Harakiri Hebdo, enfin d'Harakiri mensuel, Harakiri Hebdo, et puis Charlie Hebdo après. Et ce matin, aux petites heures, j'ai sorti ça de la bibliothèque, je ne l'avais pas ouvert depuis 20 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais prendre comme texte, pour un petit texte à lire là, pour l'émission. Et j'ai réussi à en sélectionner deux, mais j'ai eu beaucoup de mal et j'ai lu tout le bouquin. C'est une plume extraordinaire.
Oui, Kavanaugh, oui, on peut le dire. On peut le dire. Et donc, allez-y. Alors maintenant.
Je vais en lire un qui est plus du tout dans l'actualité, puisque ça parle de Salazar. Salazar, dictateur bien connu.
Dictateur portugais. Des années 60-70, oui.
Voilà, alors, Monsieur Salazar n'a pas l'air de se décider à sortir du coma. C'est un texte, du 10 février 69. Monsieur Salazar n'a pas l'air de se décider à sortir du coma. En général, le coma, chez les peuplades catholiques, c'est juste une petite formalité, une pause qui permet au prêtre de balancer une extrême onction vite fait, un œil sur le bon Dieu, l'autre sur le miroir de poche pour savoir si le client est encore là ou si on se fatigue pour des prunes. Salazar, président en activité du Portugal, est en train de battre le record du monde de coma, toute catégorie. C'est au dévouement infini d'une gigantesque armée de médecins excessivement compétents et à d'extraordinaires machines pleines de tuyaux qui font tout à sa place que M. Salazar doit d'être maintenu en vie. Une véritable ville flottante. Dès que son pouls donne des signes de faiblesse, les machines accélèrent le pompage et Salazar est rattrapé par les cheveux. Inversement, dès qu'une lueur de lucidité apparaît dans son grand œil noir, un costaud payé pour ça lui fout son poing dans la gueule et Salazar retourne dans le coma. Ainsi maintenu dans un juste milieu entre la mort navrante et la vie encombrante, le président Salazar remplit à la perfection les conditions qu'on est en droit d'exiger d'un chef de gouvernement moderne et occidental. Idée de sujet pour un prochain référendum, estimez-vous qu'il soit d'une quelconque utilité de plonger M. Couve de Murville dans un coma salazarien? Oui, non.
Alors, Couve de Murville, qui était le premier ministre à l'époque où écrivait Kavanaugh.
Voilà,
ce qu'on entend là, c'est qu'effectivement, il se fout de la gueule d'un dictateur, mais il se fout aussi de la gueule d'un agonisant.
Oui.
Ce serait encore possible aujourd'hui? C'est ce que je me demandais en vous. D'un agonisant.
Bon, si c'est un dictateur, oui.
Ah, c'est bon, voilà. C'est un dictateur, on peut.
Ah, oui. Il y a quand même toujours l'identification des salauds. Sur cette histoire, de quelle famille on forme? C'est quoi la communion avec laquelle dans laquelle on se sent prêt à refaire une fraternité? Moi, ce que j'ai ressenti dans les dernières heures, c'est qu'on fait communion et fraternité avec ceux qui refusent cette guerre, la rhétorique de la guerre. Vous disiez le geste du stylo, il est super, mais en même temps, il est dérisoire. Non, il n'est pas dérisoire, ça me paraissait. La seule réponse légitime, c'est on va répondre avec plus de démocratie, plus d'expression, plus de pensée, et certainement pas rentrer dans le piège de la rhétorique belliciste. Quand vous avez signé votre première chronique sur le sujet en terminant avec le mot « ennemi », je me le suis pris à la gueule en me disant « fausse piste, n'allons pas par là, pas d'ennemi, ne fabriquons pas de l'ennemi, de l'homme à abattre, puisque c'est précisément ce qu'on reproche à ces assassins ». Nous autres, ceux qui formons cette espèce de fraternité vivante, on va décider ou on va persister dans quelque chose où on refuse la rhétorique de la guerre. On ne prend pas les armes, on prend les stylos et on passe par-dessus les discordes qui nous faisaient voir de l'ennemi partout, alors que peut-être cette manière-là de voir de l'ennemi partout et de vouloir de la guerre, parce qu'il y a une certaine délectation de la guerre, là on se rend compte que c'est no way, pas question.
Les deux mitrailleurs de Charlie Hebdo, vous ne voulez pas les appeler ennemis, ce n'est pas des ennemis.
Non, c'est des fous pour moi.
Même des enfants perdus d'une certaine manière, voilà, il faut le dire. Ils sont dans une logique sectaire, ils sont comme programmés. Alors, comment ils ont été programmés? Il y en a qui se programment tout seuls, hein, qui arrivent à effectivement s'embrigader tout seuls. Il y en a d'autres qui, la plupart du temps, sont programmés, mais c'est vraiment une logique sectaire. Ce n'est pas pour leur retirer une quelconque responsabilité, mais il faut quand même voir ça. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire, il y a tout cette espèce de démonstration d'unité, de rassemblement des gens, la liberté d'expression, des grands principes et tout. Face à un mur d'ignorance, ces jeunes, là, ils comprennent rien, tout ça. Je veux dire, ça va leur passer dessus, mais c'est un mur d'ignorance. Donc voilà, c'est dérisoire, on ne peut rien faire contre ça.
Parce qu'il y a quand même des conditions socio-économiques qui produisent quand même. Les aspirants djihadistes ne naissent pas indifféremment dans les familles bourgeoises surdiplômées et dans le prolétariat ghettoisé.
C'est pour ça que faire des démonstrations comme ça, à mon avis, c'est moins important que d'aller essayer de faire en sorte que ces jeunes ne soient pas à 40% au chômage, voilà. Soient pas ghettoisés, parce que c'est vrai que la plupart, ils vont dire encore attendez, vous nous faites rigoler. Je suis sûr que la plupart des jeunes de banlieue là, des jeunes dieudonistes, ils sont là en train de ricaner en disant mais attendez, quand il y a eu les 3000 morts à Gaza, il y en a eu 12, vous nous faites tout cinéma.
Et ils ont pas tort.
Et voilà, donc,
ils ont pas tort de faire valoir ça.
La famille, ça doit être ça aujourd'hui aussi.
C'est-à-dire
ces jeunes-là, ouais. qui sont totalement imperméables avec ce discours unanimiste, rassembleur, qui est le nôtre aujourd'hui.
C'est pour ça que je dis que la réponse, c'est plus de démocratie et plus d'égalité.
Plus
il faut reprendre le tissu économique.
Et plus de pognon dans les banlieues aussi, voilà. Il faut le dire.
J'ai pas tellement envie d'entrer dans une discussion, puis c'est pas le sujet. J'ai beaucoup de mal à pas employer le mot ennemi à propos de ceux qui prennent les armes. Mm-hmm. Je précise bien que je parle de ceux qui prennent les armes, ceux qui à partir d'un moment prennent les armes.
Non, mais
prennent les armes pour venir.
Apparemment,
éventuellement me descendre.
Mais on va pas prendre les armes.
Me descendre parce que j'aurais dit le mot de trop.
On va pas prendre une Kalachnikov, nous.
Non.
Donc ce mot-là d'ennemi. Non. C'est pas le mot de notre langue à nous. Nous, on a les stylos et les cerveaux.
Oui.
Donc on dit pas ennemi.
Ce sont éventuellement des adversaires
dont on combat les idées et on va essayer aussi d'assécher le terreau dans lequel ça prospère. Donc la question des conditions socio-économiques qui fabriquent de l'aspirant djihadiste et tout ça.
Non, mais surtout ça, on est d'accord.
Le mot ennemi, ça veut dire ok, je vais te faire la guerre.
Non, pas forcément.
Il faut pas se mettre dans le piège que Badinter a bien pointé du doigt. Il dit qu'il ne faut pas tomber dans le piège que ces gens-là nous tendent.
Ouais.
Et le piège qu'ils nous tendent, c'est qu'on sort armé, nous aussi, comme l'autre abruti là, avec sa carte de presse. Là. Qu'est-ce qui est le plus bizarre, qu'il ait une carte de presse ou un flingue? Je ne sais pas.
Il y a des gens qui se sont demandé c'est quand la date de la carte de presse.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, là, en ce moment, donc, ils sont cernés. Je ne sais pas si c'est le GIGN ou le RAID, mais j'ai cru entendre que c'est les deux. Ça, c'est nouveau. On n'a jamais vu ça, même au moment de Mohamed Merah. Justement, il y avait eu la guerre des polices qui faisait que, non, ce n'était pas le GIGN et le RAID. Donc là, ils sont obligés de collaborer, ce qui est déjà vachement bien. Mais en attendant, eux, j'espère que leur objectif, ce n'est pas de les buter. Et j'imagine que les consignes qu'on leur a données, c'est les choper en vie. Alors, ils ont probablement.
Il y a de fortes chances qu'ils
vont essayer de crever, mais comme Mohamed Merah voulait aller au paradis en mourant avec les armes. Mais on est en démocratie, et là, je reviens à ce qui s'était passé aux attentats de Breivik. Enfin, c'était le Premier ministre qui avait dit on va répondre à ça par plus de démocratie, par plus de paix. Et ce serait très intéressant qu'il y ait des journalistes qui se penchent sur ce qui s'est passé dans ce pays-là après les attentats pour voir comment, dans cette famille, en tout cas ce tissu social, politique, économique, qu'est-ce qui a été fait pour éviter que ça se reproduise et pour retisser du lien social et ne pas rentrer dans une logique de guerre. Là, j'entendais hier, je crois, qu'apparemment, il y a certains hiérarques, je ne sais pas c'était des socialistes qui parlaient du nouveau projet de loi antiterrorisme. Non mais on arrête.
Ça, c'est l'autre grand péril.
Non, on doit faire la paix. C'était la chronique que j'avais faite il n'y a pas très longtemps où j'avais discuté avec des djihadistes sur Facebook, où j'avais dit bah, les djihadistes sont les amis de mes amis sur Facebook. Et je disais, on n'a jamais eu un outil comme Internet aujourd'hui qui nous permet de discuter avec nos ennemis ou avec des gens qui nous perçoivent comme nos ennemis. Bah, essayons. Alors, j'ai essayé de le faire. C'est très difficile de discuter avec eux. Et effectivement, ils nous perçoivent comme des ennemis. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un me perçoit comme un ennemi que moi, je vais le considérer comme un ennemi. Je ne suis pas d'accord avec cette logique de guerre.
Parler parce que c'est intéressant, Internet est revenu au premier rang des responsables désignés de la tuerie de Charlie Hebdo dans la bouche de plusieurs intervenants publics ces dernières heures. On les écoute.
Y aura-t-il enfin une réponse sur ce qui se passe, sur ce qui continue de se passer sur les réseaux sociaux? Il y a toujours des appels à la haine, vous le savez depuis hier, sur les réseaux sociaux.
Je pense que aujourd'hui Internet, je pense que Twitter, c'est déversoir de haine où de manière anonyme les gens peuvent décider de fatwa, de décider qui doit vivre, qui doit mourir, et bien qu'on n'a pas nécessairement pris la mesure. Voilà.
Cette invention géniale qui s'appelle Internet, qui est un outil, qui devrait être qu'un outil, est des fois devenu le maître. C'est-à-dire que tous, vous, les jeunes qui vous êtes ici, vous utilisez Facebook, vous utilisez les réseaux sociaux, Twitter, et c'est très bien, il faut continuer. Il faut savoir que tous ces outils-là peuvent se retourner contre vous, et ces moyenâgeux dont vous parliez tout à l'heure ne sont pas si moyenâgeux parce qu'ils savent très bien utiliser Internet et se retourner contre notre liberté de nous exprimer.
Alors, dans l'ordre, on a entendu la voix de Patrick Cohen, on a entendu Jeannette Bougrabe, ex-ministre sarkozyste et compagne de Charb, a-t-on appris à cette occasion, moi je l'ignorais, et Plantu, dessinateur du Monde.
Ça, c'est le retour du mauvais côté de Philippe Val. C'est-à-dire que oser dire que Internet est un réservoir d'appel à la haine, mais je ne sais pas si ils n'utilisent pas Twitter. Moi, quand j'étais mercredi après-midi, que je regardais mon fil Twitter, mais c'était pas des appels à la haine, c'était des appels à la paix, c'était des pleurs, c'était de l'empathie, c'était énormément d'empathie. Bien évidemment, j'ai vu des djihadistes, des Français qui sont à Raqqa, qui sont super contents, de ce massacre à Charlie Hebdo. Bien évidemment qu'il y en a.
Et qu'ils le disent sur Internet.
Et qu'ils le disent sur Twitter. Mais bien sûr,
ils disent sur Twitter.
Mais ils se font rentrer dans l'art. On peut les identifier, ils ne sont pas anonymes. On peut discuter avec eux. On peut arriver à savoir combien ils sont. Ils n'arrêtent pas de voir leur compte Twitter fermé. Ils réouvrent d'autres comptes. Moi, c'était un truc que j'ai appris quand j'avais interviewé Andy Müller-Magoun, qui est l'ancien porte-parole du Chaos Computer Club, qui est donc ce grand groupe de hackers allemands. Quand je l'avais interviewé, il m'avait dit un truc qui m'a retourné. Il m'avait dit « Les gens qui se parlent ne se tirent pas dessus ». Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de défendre les libertés sur Internet et de garantir qu'Internet en puisse communiquer, parce qu'à partir du moment où tu peux communiquer avec quelqu'un, il y a moins de chances que la personne te tire dessus. Et c'est ce que c'était la conclusion de ma chronique, c'est que immanquablement, toutes les guerres finissent de toute façon, systématiquement, par le même schéma. À un moment, les gens qui se sont fait la guerre se mettent autour d'une table et ils discutent. Et après, on arrive à la paix. Donc plutôt que de faire la guerre, commençons effectivement par voir en quelle mesure on peut s'en servir pour enrayer des mécanismes de guerre. Mais dire que Internet est un... Enfin, caricaturer ça, c'est hallucinant.
C'est la face radieuse que vous décrivez là. Mais
c'est pas
la face
normale.
Il y a aussi la face sombre.
Et d'ailleurs, l'infime minorité.
Et elle existe aussi. Vous avez fait une chronique sur le sujet, sur le site d'Arrêt sur Image. Mmh. Les types qui sont à Raqqa et qui continuent à poster leurs images d'entraînement, qui continuent à poster des images de décapitation, d'égorgement, qu'on se fait circuler, qu'on s'envoie. Les gens qui sont qu'on montre pour les montrer à ceux qui sont restés en France et pour leur montrer à quel point c'est formidable le djihad, à quel point c'est cool et à quel point c'est intéressant, c'est quelque chose qui existe aussi.
Oui, on sait que Mohamed Merah s'est aussi radicalisé en regardant des vidéos d'égorgement et de décapitation. Mais pour autant dire que Internet serait un déversoir de haine, c'est comme dire la France est un déversoir de haine, ou dire la banlieue est un repère d'islamistes. C'est scandaleux de tenir des propos comme ça, quand on est un responsable politique, ou quand on est un journaliste comme Patrick Cohen qui pose cette question. Je ne comprends pas qu'on puisse caricaturer à ce point-là. Pour moi, c'est du racisme, c'est comme de dire les banlieues sont... Il faut fermer les banlieues parce que c'est
un réseau qui défend son monopole de l'expression, quoi. C'est vraiment ça, là. C'est un réflexe d'oligarchie.
Tout le monde est d'accord avec ça autour de cette table?
Complètement.
Alain aussi.
Ouais, sur. Je regardais Facebook et Twitter. Et bien, ça dépend aussi des gens auxquels je suis abonné. Les gens qui sont abonnés à ce que j'écris, j'ai vu aucun message de haine, rien.
Moi, j'en ai vu, mais j'ai envie de dire, heureusement que je les ai vus. Parce que je préfère effectivement savoir que ça existe plutôt que de faire comme ça. Et ah ben non, ils sont là-bas, ils sont à Raqqa, ils continuent à égorger les gens à Raqqa. Moi, c'est pas mon problème, moi, je suis à Paris. Ben non, je préfère le savoir. Ça résout pas le problème. Mais au moins, on a un moyen de pouvoir communiquer. C'était cette vidéo qui était assez marquante, qui avait été filmée à Raqqa, où on voyait en caméra cachée des femmes qui portaient le voile et qui communiquaient avec leur famille par Skype et qui expliquaient à leurs parents « Non, je veux pas rentrer parce que je suis très bien là. » Mais au moins, ils gardent cette communication. Ça va pas résoudre tout le problème. Mais en tout cas, ce n'est pas le problème. Et ça peut être une partie de la solution. Moi, par contre, ce qui me fait plus peur sur Internet, c'est pas tant qu'il y ait des djihadistes à Raqqa qui balancent des vidéos de décapitation. Là, j'ai vu l'édito de Thierry Messant, par exemple. Thierry Messant, il explique que ça peut pas être des djihadistes, parce que si c'était vraiment des djihadistes, ils auraient détruit les archives, parce que dans le processus d'un djihadiste, ils butent tout le monde. Or, ils ont pas buté tout le monde, ils ont pas brûlé les archives, ils sont partis. Donc, si c'est pas des djihadistes, qui c'est ?
Washington.
Évidemment, avec Israël. Bon, je vois des gens qui disent, mais vous avez vu le flic qui s'est fait... mais en fait... On voit pas de sang, mais quand tu reçois une balle dans la tête, et ben normalement ça explose et il y a du sang. Donc c'est un comédien, le policier. On a déjà des théories de la conspiration.
Ça commence, j'ai pas encore vu.
On a déjà pas mal de théories de la conspiration.
La carte d'identité, le type qui perd sa carte d'identité.
Bah oui, il perd la carte d'identité dans la bagnole. En plus, la bagnole, tu sais quoi ? Elle s'est grillée juste devant un resto cachère. Attends, mais il est parent, il a pas détruit le resto cachère. Donc on a déjà. Donc ces théories de la conspiration, ça vient pas de djihadistes qui sont un Raqqa, ça vient de bons Français. qui vont peut-être manifester à la manifestation de Riposte Laïque, qui veut faire la même chose que Pegida en Allemagne et dire, je sais pas si vous avez vu l'appel à la manifestation, c'est chauffard, égorgeur, violeur, non aux islamistes.
En Allemagne, hein.
En France.
En France, pardon.
C'est la manifestation de la semaine prochaine en France.
De dimanche.
Non, la manifestation qui était prévue contre l'islam, qui a été lancée par Riposte Laïque, d'accord. Je ne sais pas comment ça va se passer, c'était prévu avant les attentats, enfin avant le massacre, je préfère parler de massacre à Charlie Hebdo, mais ce slogan-là, chauffard...
C'est violent, chauffard.
Bah oui, parce qu'il a joué les tours, c'est des chauffards, ils ont essayé d'écraser. Donc chauffard, égorge, enfin, juste, on est dans n'importe quoi. Et ça, donc, ça me fait plus peur. Ces gens qui rentrent en théorie de la conspiration et qui, effectivement, eux, considèrent les musulmans comme l'ennemi, non pas les islamistes, mais les musulmans comme l'ennemi, j'ai plus peur de ça que du djihadiste perdu qui est rentré dans cette secte à Raqqa. Même si lui, il va faire des morts. Ou va crever.
Pour revenir un tout petit peu sur les paradoxes de la situation d'aujourd'hui, on entendait Val tout à l'heure dire « Je regrette presque de ne pas avoir la foi ». Alors, Val, quand même, l'ex-patron de Charlie Hebdo, le temple de l'anticléricalisme, des bouffeurs de curés, de tout ce qu'on veut. Je regrette presque de ne pas avoir la foi. Quelqu'un a parlé de journal martyr. Charlie Hebdo, journal martyr. Je crois que c'est le secrétaire d'État américain, John Kerry, qui a parlé de journal martyr. Les minutes de silence, tous ces rites, la journée de deuil d'hier, le bourdon... Le deuil national, le bourdon de Notre-Dame pour Cabu et Volinsky, ce retournement extraordinaire. Quoi.
Ils doivent se retourner dans leur tombe.
Oui, sans doute. Oui.
J'ai reçu hier, c'est Défense Nationale, qui est une revue faite par le ministère de la Défense, qui a fait un éditorial « Je suis Charlie ». Donc déjà avant, ça me faisait bizarre quand j'allais rue Appert de voir que Charlie était protégé par des policiers. Enfin, tu vois, un canard anticlérical, anti-flic, et en même temps, c'est ce qu'on dit pas mal de commentateurs. C'est oui, il y a des policiers qui, depuis des années, étaient là pour protéger Charlie, qui n'arrêtaient pas de se foutre de la gueule des flics. Je pense que c'est aussi ça, la famille, peut-être, pour répondre à la question. Mais là, après...
C'est aussi ça, la famille, c'est-à-dire les flics ?
Non, le fait que oui, effectivement, il y a des flics qui ont protégé Charlie, alors que Charlie se foutait de la gueule des flics depuis des années. Et que là, ce qui est vachement intéressant, c'est de voir qu'il y a des gens qui s'aperçoivent que les flics, c'est pas des flics, c'est des gardiens de la paix. Qui sont là pour te protéger. On va voir comment... Là, le fait que le GIGN et le RAID fassent la paix...
Et qui, à cette occasion, ont acquis un visage et un prénom.
Et deux prénoms, pour les deux...
Et deux prénoms, par exemple, celui qui a été descendu à terre, sur ces images absolument terrifiantes. Après le massacre, on a appris sa biographie, on a appris qu'il s'appelait Ahmed, qu'il avait 42 ans, il est devenu une figure aussi familière que les figures des...
Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de gens, mercredi, alors que plein de gens arboraient « Je suis Charlie », il y a plein, notamment des policiers sur Twitter et des magistrats et des avocats, ou des gens du ministère de la Défense, qui ont dit « Je suis un policier ». C'est-à-dire qu'ils ont dit, ouais, mais attendez, il y a aussi des policiers qui sont morts, il n'y a pas que des gens de Charlie. Et après, il y en a, je suis Charlie et je suis policier. Enfin,
ce qui pose une autre question, c'est le rapport que doit entretenir maintenant le futur Charlie et les médias avec l'institution. Puisque, effectivement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est en train de redécouvrir les vertus protectrices de l'institution. Vous parlez des flics, mais c'est l'État. Le gardien de la paix, c'est l'État.
Faut surtout s'en détacher très vite.
Oui, oui, il faut faire gaffe, parce que là, on est juste au bord du grand fantasme sécuritaire. Vive la police, surtout plus de forces de l'ordre. Allez limiter un peu nos libertés, qu'on soit bien sûr d'être protégés. Donc attention.
Quand je parle de l'institution, c'est plus large. C'est plus large. Quand je parle de l'institution, c'est plus large. C'est non seulement les flics qui protègent, mais c'est Google qui donne de l'argent. C'est le France Télévisions, Radio France, le groupe Le Monde qui manifestent leur solidarité. C'est toutes sortes d'institutions. Le ministère de la Culture, Fleur Pellerin a dit on va essayer de dégager 1 million d'euros. Donc c'est plus large que simplement la police. Il y a une espèce de... en train de se construire une protection multiforme de l'institution. C'est bien, c'est pas bien.
Contre le geste barbare, il y a des réflexes.
C'est la mort du journal.
C'est la mort de Charlie Hebdo. C'est la mort de cette presse-là.
Alors donc quoi ? Faut refuser l'argent. Si Fleur Pellerin donne de l'argent, faut refuser l'argent de Fleur Pellerin.
En tout cas, il faut partir avec le pognon et faire un bras d'honneur. Faire un bras d'honneur juste derrière. C'est ça qu'il faut faire. L'esprit Charlie, c'est ça. Bien sûr, il faut prendre le pognon. Mais il faut le braquer, quoi.
Pensez qu'ils sont encore en état de courir dans l'état où ils sont.
Non, mais il faudrait qu'ils redeviennent vite, quoi. Ouais. Sinon,
il y a des gens qui parlaient d'un rapprochement avec Ciné Hebdo. Je ne sais pas du tout ce qu'on pense Ciné. Je ne sais pas comment ils le vivent Ciné.
Non plus, par ailleurs, ça va être.
Mais au sens, il y a pas mal de gens quand Ciné a été viré. Il y a pas mal de gens qui sont allés bosser avec Ciné parce qu'ils ne voulaient pas bosser à Charlie.
Il y aurait une logique à ça, oui, effectivement.
Après la question, c'est parce que c'était tout le paradoxe de Charlie. On en parle beaucoup comme étant effectivement anticlérical, parangon de la défense de la liberté d'expression. Mais CQFD n'existerait pas si Philippe Valle n'avait pas viré Olivier Siran. Ciné Hebdo et un certain nombre de gens qui collaborent en Ciné Hebdo n'existeraient pas si Philippe Valle n'avait pas viré, enfin je sais plus si c'est Philippe Valle.
Didier Porte ne serait pas autour de cette table s'il n'avait pas été viré par Philippe Valle, il faut quand même le dire.
Voilà, Philippe Valle qui a viré Ciné quand même en l'accusant d'antisémitisme.
Voilà, de Charlie Hebdo.
Donc si on parle effectivement la liberté d'expression, l'anticléricalisme, le fait de pouvoir se barrer avec l'argent de la caisse et avec un bras d'honneur, oui, je suis pour cette presse-là. La question, ce n'était plus ce qu'était devenu Charlie Hebdo. C'est pourquoi donc je ne lisais pas, ça m'était arrivé de le lire, mais je ne l'achetais pas. Ce serait génial si ça pouvait le redevenir.
Bah, si Charlie pouvait redevenir le Charlie d'avant 1981, oui, là, ce serait super. Parce que ça, c'était le vrai Charlie. Le vrai Charlie s'est arrêté en 1981, enfin, au début de l'année 1981.
Il faut surtout que Charlie devienne le Charlie d'après 2015. C'est surtout ça qu'il faut. Il faut qu'il en termine avec le Charlie d'avant 2015 et qu'il devienne un autre Charlie d'après 2015.
Oui, mais pour redevenir un Charlie tel qu'il était il y a peu, c'est peut-être pas la peine.
Vous étiez à La République ?
Oui. Oui.
Vous avez crié « Je suis Charlie » ?
Non.
Vous aviez une pancarte « Je suis Charlie » ?
On m'a filé un autocollant que j'ai mis sur mon sac avec un certain malaise. Je ne voulais pas le refuser à celui qui me l'a attendu. Donc je l'ai pris parce que j'étais absolument dans une recherche de lien et surtout pas de solitude. Et j'avais collé l'autocollant et j'étais gênée de ça parce que non, je ne suis pas Charlie. En fait, ce n'est pas exactement ça qui m'est arrivé quand je ne suivais pas non plus du verbe suivre Charlie. Je ne le lisais pas. Alors, pour arriver à surmonter ma difficulté, puisque moi, je ne suis pas lectrice de Charlie Hebdo, je n'aurais pas défendu cet organe de presse que je n'y trouvais pas mon compte, moi, comme lectrice, peut-être aussi en tant que femme, parce que c'était un peu sexiste, un tout petit peu, bon. Mais pourtant, voilà, c'est en tant que... c'est quelque chose de la liberté d'expression qui a été atteint, et ça, je m'y retrouve, parce qu'on me trouvera toujours comme défenseuse de la liberté d'expression. Donc, je suis ce bout-là de Charlie. Ce bout-là de Charlie qui était la liberté d'expression.
C'est plus long comme slogan, hein. Ça le fait moins que je suis Charlie.
Je l'ai retiré l'autocollant, il était sur mon sac et je l'ai retiré, ça me met mal à l'aise. Et puis aussi parce que moi je travaille en banlieue dans le 93 et que me trimballer avec cet autocollant-là au milieu de ce prolétariat ghettoisé que je fréquente dans le 9-3, eh ben, c'est pas si simple d'être Charlie là-bas. Voilà. C'est que là-bas, il y a des conditions socio-économiques, j'y reviens encore, qui font que notre identification à nous, hein, nous les Parisiens bobos, absolument spontanés avec Charlie, elle n'est pas forcément compréhensible dans les mêmes termes là-bas.
Vous avez parlé avec vos élèves de ce qui s'est passé mercredi ?
Alors, avec mes élèves, c'est des étudiants BTS qui, il y a une espèce de mixité sociale. C'est pas représentatif du ghetto du 93, qui sont les lycéens qui fréquentent mon établissement, et plus encore les non-lycéens qui viennent l'incendier. Mon établissement, il a fait l'objet d'un incendie criminel il y a quelques semaines, quelques mois, au moment de la mort de Rémi Fraisse. Le parvis de notre lycée, il a été cramé par des gamins fous de rage. Voilà, cette jeunesse folle de rage et qui peut avoir des aspirations djihadistes. Elle est là-bas, je la croise.
Vous lui parlez ?
Non, on se voit, on se parle pas.
On se voit. On se voit comment ? On se voit de près, on se voit de loin.
Par exemple, quand il y a de la racaille qui traîne aux abords du lycée, qui rackette un peu les étudiants ou les lycéens, on les voit, les gamins en capuche qui traînent, qui agressent. On se voit, ils me voient, je les vois. Comment voulez-vous qu'on se parle ?
Je suis Charlie, vous pourriez le dire ?
Oui, non, je suis assez d'accord. C'est-à-dire, c'est un slogan qu'on ne peut pas porter partout. Et qui, effectivement, se balader avec en Seine-Saint-Denis, ça peut être considéré comme une forme d'agression.
Et, mais vous avez envie de le porter ?
Moi, je n'étais pas Charlie avant l'attentat, je le suis bien sûr après. Voilà.
Aujourd'hui, vous pourriez dire je suis
Charlie, mais c'est vrai que j'ai cette réticence. J'ai pas envie que des gens se sentent insultés par ce slogan alors qu'ils sont déjà dans une situation qui est une forme d'insulte, une situation sociale, économique, voilà.
– Je suis Charlie ?–
Je suis Charlie, oui, bien que je ne lisais plus Charlie depuis des années, depuis un peu avant que Val en prenne la direction. Charlie était en train de crever… une pauvre petite mort financière, là, hein. Ces derniers temps, on recevait des demandes de financement, etc. Charlie serait mort faute de moyens financiers. Franchement, ça ne m'aurait pas fait pleurer. Hein. J'en avais pas grand-chose à faire. Ce qui se disait dans ce canard depuis des années me déplaisait fortement. Maintenant, avec ce qui s'est passé, oui, je suis Charlie.
Vous êtes Charlie aujourd'hui. Je crois que vous êtes venu avec un certain nombre de couvertures.
Oui, des couvertures qui m'ont fait réagir à l'époque. Avant Charlie Hebdo, il y a eu Harakiri Hebdo. Hein, et il y en a une, par exemple, un dessin de Rezer. C'était en 1969, c'était à propos de la guerre du Vietnam. Pour une guerre plus humaine, on voit un militaire qui mesure un gamin, qui dit « Merde, il n'a pas la taille réglementaire, je vais encore avoir des histoires ». Bon, référence à la taille des poissons, etc. Mais en fait, cette image, c'est une reprise, si on veut, d'une photo célèbre de William Eugene Smith, une photo qu'il avait faite aux îles Mariannes en 1944. Et c'est exactement la même chose. Et Reiser, l'air de rien, faisait pas souvent, mais de temps en temps, des références à d'autres images. C'était pas juste de la déconne comme ça. Par exemple, il avait fait une couverture que je n'ai pas amenée là. C'était Vietnam Superstar. Et on voyait un Vietnamien cloué sur une croix christique. C'était une référence à Jésus-Christ Superstar, une comédie musicale très célèbre.
Des années 70, oui.
Voilà, qui était sortie en 71. Il faisait tout le temps des choses comme ça.
Cette couverture me fait très, très, très bizarre. Ce que j'ai fait. J'ai fait une interview d'un gendarme mobile à Calais qui m'expliquait qu'on leur avait donné l'ordre d'arrêter d'apporter des mineurs, de ramener des mineurs, parce que quand ils chopaient des sans-papiers mineurs, c'était super galère, c'était compliqué, parce qu'il fallait appeler un psychologue, les services sociaux. Donc, m'apporte pas de mineurs.
Voilà, et ça, c'était pas la taille réglementaire.
C'était il y a 2 ans à Calais, quoi. Enfin, et ils sont en guerre contre les migrants là-bas, quoi.
Ouais. Il y avait d'autres images, par exemple, de Cabu dans Charlie Hebdo. L'Italie a voté communiste, il y avait eu des élections, le pape retourne sa veste, la religion, c'est l'opium du peuple, disait Paul VI, avec un couteau entre les dents. Je ne sais pas si on pourrait refaire des choses comme ça aujourd'hui, peut-être. Il avait fait un autre dessin que je n'ai pas amené, mais je crois qu'on l'a quand même, une couverture de Charlie Hebdo, où on voyait 3 rouleaux de PQ, et c'était écrit « Abat toutes les religions ». Au chiottes toutes les religions, voilà, avec un rouleau de PQ Bible, un autre Coran, un troisième Torah.
Quelle date, ça ?
Ça, alors, c'est 2011.
C'est très récent, ça.
C'est 2011, c'est le nouveau Charlie, voilà, si je puis dire. On reconnaît, on reconnaît avec le logo, hein, c'est le...
C'est la période post-Val. Hein,
voilà, déjà. C'est post-Val, ça. Mm. 2011, c'est pas si vieux. Est-ce qu'on pourrait refaire cette couve aujourd'hui?
Bah, franchement, Alain, en 2011, c'était déjà chaud. Hein.
Enfin, oui. Je veux dire, oui. Oui, mais enfin, ils ont osé, quoi.
Oui, oui, mais bien sûr. Bien sûr.
C'est la BD que Charles avait fait sur le Coran.
Oui.
Qui était particulièrement violente, mais particulièrement drôle et instructif. Enfin, moi, je connaissais toutes les horreurs qu'il y avait dans la Bible. Je ne connaissais pas toutes les horreurs qu'il y avait dans le Coran.
Et bizarrement, il n'y a pas eu tellement drôle. De réaction.
Et c'était, à ça. Drôle. C'était drôle. C'était drôle parce que c'était du mauvais goût, du mauvais esprit. Enfin, c'était du harakiri, c'était du sharp. C'était pas bien pensant. C'était pas ce que, justement, apparemment, on est plusieurs ici à avoir regretté cette dérive-là de Charlie Hebdo, où on fait croire qu'on est subversif, alors qu'en fait, non, il était néo. Enfin, une partie. Je dis pas tout, parce que je peux pas dire que Cabu, Wolinski, c'était pas des néocons. Bon, soyons clairs.
Il y a une autre couverture que je vais montrer qui n'a rien à voir avec ce qui précède. On disait tout à l'heure, ouais, Charlie Hebdo, j'étais un peu sexiste, tout ça. C'est à prendre avec des pincettes, parce qu'en juin 76, Rezaer a fait un dessin, une chèvre violée par trois voyous. Vous les aviez allumés, dit le policier.
D'accord. Bon. Mais j'avais 4 ans, donc.
Et voilà.
C'était en 76, hein, ouais. Quand même. On les a beaucoup taxés de sexisme et tout ça, mais bon, alors, ils avaient un double discours, en fait. Il fallait prendre les choses au deuxième, troisième, quatrième degré. Puis, je vais finir avec un autre dessin de Rezaer, je crois. C'était en mars 70. Ça, c'était dans Harakiri Hebdo, donc la majorité silencieuse. Voilà, je trouve ça... sublime.
Ouais, quel est le sens? Vous pouvez nous décrypter ce dessin?
Je dirais comme Francis Blanche avait demandé à... Non, c'était Pierre Dac qui avait demandé à Francis Blanche la description d'un tatouage sur une partie intime dans un sketch. Il dit, qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, par là, j'entends pas grand-chose.
D'accord, très bien.
Ça me fait penser à apparemment quelque chose qu'aurait dit Wolinski à sa femme. Il dit, le jour où je crève, tu m'incinères, tu jettes les cendres dans les chiottes, comme ça j'aurai ton cul tous les jours. Et ça, je trouve ça génial. Et ça, c'est un des trucs qui m'a fait sourire, effectivement, depuis mercredi, c'est d'écouter Charline Van Hoenecker sur France Inter ou d'autres qui ont commencé à se foutre de la gueule des gens de Charlie Hebdo, mais gentiment, pour qu'on recommence à rire, qu'on fasse pas que chialer. Et ça, voilà, c'est... Il y en a qui ont recommencé, ça, c'est vachement bien.
Rire, toujours rire. Rire de tout. Non, non, et même de...
y compris de ce qui s'est passé. C'est Charlie Hebdo, là, on parle pas du... C'est pas un pape qui est mort, quoi. Enfin, justement, bien sûr qu'il faut aussi en rire. C'est ce qu'ils auraient voulu. Et là, il y a un dessin super où on voit Dieu et sur un nuage et où il y a plein de bites. Et il dit, putain, ils ont déjà commencé à dessiner partout des bites. Ouais, voilà, quoi.
Je crois que s'il y a un mot à retenir aujourd'hui, c'est celui-là, quoi. Faut pas s'arrêter de rire. Faut pas s'arrêter de rire.
Non.
Voilà. Faut pas s'arrêter. Donc, vous repartez pour une saison. c'est reparti.
C'était la pression, mais bon.
Et puis, il n'est pas interdit de faire des chroniques rigolotes. Et puis, y compris même, sur vos sujets.
Ah ben merci.
Il y a des émissions en rapport avec Charlie qui sont prévues
nous, à hors-série, comme on a toujours un temps d'avance, on les enregistre un petit peu à l'avance. Il y a ce côté, du coup, on est dans un décalage temporel un peu cosmique, quoi. Donc, on va mettre en ligne samedi une émission sur la fiction avec une romancière, Julia Deck, qui est absolument géniale. Mais on a enregistré ça le 23 décembre. Donc, évidemment, il y a un déphasage. Mais je sais bien que, de toute façon, ce qui s'est passé, ça infuse en chacun de nous et que ça va complètement infléchir notre manière de penser, les invitations, les sujets. Notre manière même d'en parler. Là, Muriel Joudet a tourné une émission sur le cinéma hier avec un psychanalyste qui bosse sur le cinéma de Spielberg. Et elle me disait, quand j'avais lu son bouquin, il y avait des tas de trucs qui ne me parlaient pas. Puis après l'attentat, j'ai complètement recompris différemment tout son texte. Et quand je l'ai interrogé, je sentais les choses complètement différemment. Donc c'est évident que ça infuse chez nous. Mais après, ce n'est pas forcément délibérément qu'on programme spécialement. Chez nous, à hors-série, on a toujours une temporalité un peu plus détachée, quoi.
Ok, on a tout dit.
Je sais pas si je vous en dis juste sur mon attentat. J'ai un vrai problème avec l'attentat. Parce que souvent, les attentats, ça vise des innocents qui.
C'est
aveugle. Là, c'est un massacre. Là, c'est pas aveugle. Alors, je sais pas si c'est vrai. J'ai entendu dire qu'apparemment, un des gars aurait dit il est où Charb? Et ensuite, il aurait égrené les noms comme ça.
C'est controversé. Hein. Alors, le témoignage est controversé, on n'est pas sûr qu'il
y ait. Effectivement, il y en a un certain nombre. Tout le monde n'a pas été buté dans ce truc-là. On ne sait pas encore exactement comment ça s'est passé. Mais moi, c'est massacre. Parce que c'est ça, c'est vraiment un massacre ciblé. C'est pas n'importe qui a été visé. Et ils ont été visés. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont osé caricaturer le prophète.
Massacre et même presque une exécution aussi, puisqu'ils ont agi avec beaucoup de sang-froid. Et effectivement, c'était très ciblé.
Et avec des gens qui n'avaient rien à voir, enfin, le vigile à l'entrée. Enfin,
Merci à tous les quatre, merci de nous avoir suivis. Très bonne année, malgré tout, je ne l'ai pas encore dit. Et à la semaine prochaine.